Nous recevons ce soir Monique Amirault dans le cadre des soirées de la bibliothèque de l'ACF Normandie, association Cause Freudienne en Normandie, et de l'antenne clinique de Rouen. Monique Amirault est psychanalyste à Angers, membre de l'école de la Cause Freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Monique Amirault a publié en 2017, donc tout récemment, un ouvrage intitulé Bricoleur de réel, Gaston Chessac, épistolier. Gaston Chessac, épistolier, le sous-titre de cet ouvrage qui est publié chez Navarin, Le champ freudien. Pour vous donner déjà une petite idée, au fond, pour présenter cet ouvrage, je dirais les premières lignes de la quatrième de couverture qui nous donne déjà une très belle idée de ce personnage hors norme qu'était Gaston Chessac. Dénué du lustre de Picasso, de Dubuffet, Gaston Chessac ébloui, déroute et enchante. Avec Monique Amirault, nous découvrons dans sa correspondance, ses astuces inouïes pour se situer dans le monde, se faire un corps et tisser un lien social inédit à partir de sa création protéiforme. De la marge où il campe, Chessac tempête et sème des milliers de lettres à tout vent, il balaie les semblants, les épluche allègrement et récupère de divins débritus. Débritus est un néologisme créé par Gaston Chessac. Il récupère de divins débritus, matière à une écriture pimentée d'ironie. Contre l'usage normatif du langage et le jargon savant, il fit une langue singulière, se fait expérimentateur de discours, hérésiologue, poète épistolier. Ce bricoleur de réel trouve ainsi, en son symptôme, sa boussole. Voilà. Donc Monique va nous parler donc de ce personnage hors norme qu'a été Gaston Chessac dans un exposé qui a pour titre Les racines du style. Les racines du style. Après l'exposé de Monique, nous aurons un temps de discussion. Un petit groupe de collègues et moi-même avons préparé des questions. Il s'agit donc de Barbara Brière, Nathalie Herbulot et Céline Guédin qui ont travaillé sur, qui ont lu le livre de Monique, qui ont préparé des questions. Voilà, donc je cède la parole à Monique.
Bon, ce que j'ai préparé, j'ai pris un point de vue. J'ai pris un point de vue. Je n'ai pas parlé de tout ce dont je parle dans le livre, hein, bien sûr. Hein. J'ai pris un point de vue qui est celui du symptôme et du style. C'est des choses qu'on travaille quand même pas mal depuis un certain temps, hein, que vous avez dû travailler aussi en antenne clinique. Voilà, donc j'ai extrait certains points que vous avez déjà rencontrés si vous avez lu le livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si tout le monde l'a lu ou pas, mais enfin... je ne sais pas qui l'a lu d'ailleurs, que je sache un peu. Voilà.
C'est en cours.
Bon, donc il y en a une, hein, et puis une grosse moitié qui ne l'a pas encore lu. Bon, d'accord. Alors, commencer, ce que je voulais juste vous dire, c'est que Chessac, je le connaissais comme peintre, hein, mais c'est vrai que ma surprise avait été de découvrir lors d'une exposition, il y a longtemps, à la librairie, des livres de sa correspondance. Hein, j'ai découvert donc que c'était quelqu'un qui écrivait, et qui écrivait quand même d'une drôle de manière, avec une grande liberté, et j'avais acheté les livres qui étaient publiés à ce moment-là, et c'est beaucoup plus Chessac, l'épistolier, comme il se dit, hein, comme il se nomme lui-même, qui m'a accroché, qui m'a intéressé, que j'ai eu envie de travailler, plutôt que de parler du peintre, comme on peut gloser sur des peintres. Moi, enfin voilà. Ceci dit, bien sûr que je parle aussi de Chessac le peintre, parce que tout ça, ça ne fait qu'un. hein, mais à partir de ce qu'il en dit de sa peinture, hein, à partir de ce que lui présente, de ses commentaires à lui, non pas à partir d'une position extérieure de commentaires de spécialistes de l'art ou voilà. Hein. Bon, donc Gaston Chessac, si m'est apparu si extraordinaire, si hors norme, en effet, hein, dans sa correspondance, c'est parce qu'il a une grande liberté, bien sûr. Hein. Il se savait une exception, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou du moins quand on pense qu'on est un peu une petite exception, on n'oserait jamais le dire quand même, hein, même si on en rêve. Hein. Lui, il se savait une exception, il s'en faisait vraiment une ligne de conduite. Hein. Il défendait ses semblables, les originaux, les faibles, les différents, les incultes, qui étaient les seuls, pour lui, susceptibles d'apporter du nouveau dans le monde, dans la triste banalité du monde des normés, hein, des normaux. Bon. Il écrivait « Tant qu'on demandera partout aux gens leur casier judiciaire, un certificat médical et des diplômes officiels, ça ne sera pas brillant. » Et il écrivait encore « Les gens normaux n'ont jamais rien fait d'extraordinaire. » Bon. Il a raison, hein, bien sûr. Et lui-même, dans une de ses multiples signatures, se définit ainsi, GC, donc Gaston Chessac, coups humains et grands choix d'idées contradictoires. Donc voilà, c'est annoncé. On peut dire que pour Chessac, la santé mentale, c'est l'ordre public. Là, je reprends une formule de Jacques Anna Miller. Hein, qui avait proféré ça à l'occasion de journées People, dont le titre était La santé mentale, hein, à Bruxelles. Voilà, hein, faisant le lien entre l'ordre public et la santé mentale. Et on voit bien aujourd'hui comment tout le souci, la santé, et de faire que tous les gens fonctionnent de la même manière, qu'on n'ait pas de problème, que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse être à sa place et que ça roule. Hein. Mais y a-t-il des gens normaux? Qu'est-ce que la normalité, sinon une valeur statistique? Chez Sac a raison, ce n'est pas le normal qui permet la création, mais bien ce qui échappe à la normalisation par le signifiant. Cette part de jouissance, rebelle, irréductible, qui se loge pour chacun dans ce qu'il y a de plus réel du symptôme. Et ce réel, Lacan dit à la fin de son enseignement, on doit pouvoir s'y habituer au réel, en précisant que le seul concevable, le seul à quoi nous ayons accès, eh bien, il se situe au niveau du symptôme. C'est la manifestation du réel à notre niveau d'être vivant. C'est la seule manifestation qui soit acceptable du réel dans le symptôme. Au XXIe siècle, vous savez bien sûr que tous les modernes hygiénistes, les pseudo-scientifiques armés de leurs outils statistiques prétendent éradiquer le réel et formater les hommes comme des machines dans un monde sans symptômes et sans inconscient. On est confronté à cela. En ce début du XXIe siècle, les signifiants symptômes et inconscients dans leur acception inédite inventée par Freud, disparaissent du champ sémantique, ont disparu du champ sémantique, au profit de ceux de troubles, de dysfonctionnements, de syndromes, comme addition de signes objectivables, corps étranger à éliminer et dont l'individu serait la victime malheureuse. Or, tout être parlant est nécessairement soumis au régime du symptôme, qui supplée au trou dans le symbolique. C'est là que se forge son usage de la langue, sa manière d'habiter le monde, sa singularité, son style. Le symptôme est à la fois sa douleur et sa chance, chance de parvenir à en faire un usage singulier et créatif dans une modalité de lien social propre à lui, hein, qui sera la sienne. Aujourd'hui, l'art n'est plus référé à la sublimation, en tout cas pas de la même manière que Freud le faisait, mais bien plus directement à la pulsion elle-même, à la jouissance de son exercice. À la fin de son enseignement, dans les conférences nord-américaines, Lacan dit « expliquer l'art par l'inconscient me paraît du plus suspect ». Attendez, j'ai perdu ma ligne. Oui, voilà, me paraît des plus suspects. « Expliquer l'art par le symptôme me paraît plus sérieux ». On ne crée donc qu'à la mesure de son symptôme. C'est ce que Lacan avait appris avec le cas Aimé, choisi pour sa thèse, où il écrit, en évoquant son maître de Clérambault et Crépelin, qui l'avait précédé, et en soulignant le génie de leur clinique, il écrit « Singulièrement, mais nécessairement, croyons-nous, nous en fûmes amenés à Freud, hein, à partir de son expérience de Clérambault et des grands psychiatres. Car, je continue à la citation, la fidélité à l'enveloppe formelle du symptôme, qui est la vraie trace clinique dont nous prenions le goût, nous mena à cette limite où elle se rebrousse en effet de création. » Donc on voit là déjà le lien entre le symptôme et la création. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir que chez des psychiatres comme de Clérambault ou Crépelin, eh bien Lacan avait trouvé la vraie trace clinique dont il a pris le goût. Dans une lettre à sa future femme, Chessac dit cette valeur créatrice du symptôme où se loge la joie d'être. Il lui écrit « J'ai lu quelque part que les artistes ont été privés de toute autre joie que celle de créer. Je crois qu'il en est ainsi non seulement pour les artistes, mais pour tous. La joie de créer est bien la seule qui existe. De ses mains, de son cerveau, chacun crée quelque chose. » Au fond, la création, comme il l'avance, n'est pas un domaine réservé à l'artiste. Et la création prend les tours les plus singuliers et aussi les plus modestes chez Chessac. La correspondance infinie de Chessac est un témoignage donc paradigmatique du chemin et des contingences qui conduisent un par-lettre à la création, ici par un traitement subversif de la langue et de l'objet. Entre patois pour la langue et débritus, le néologisme qu'il crée, entre invention d'une langue inédite et usage des rebuts dont il parle sans se lasser, Chessac communique au lecteur la jouissance qu'il en tire. Écrire a toujours été pour lui l'appui primordial, la priorité sur laquelle il insiste sans discontinuer. Il écrit « Des artistes et des écrivains connus m'encouragèrent à peindre et, enhardi, je me lançais dans des recherches plus personnelles. Je ne me bordais pas à peindre et, quoique n'ayant pas même mon certificat d'études, j'eus l'audace d'écrire. » L'audace, il la situe de ce côté-là. Ou encore, il écrit « À 30 ans, je réalisais mon rêve de mon enfant. J'écrivais. » D'ailleurs, Chessac dit qu'il n'est pas tourmenté par le désir d'être un grand peintre. « J'aurai davantage d'ambition, écrit-il, en ce qui concerne la littérature, et j'éprouve d'ailleurs bien davantage le besoin de m'exprimer dans le langage écrit, toujours écrit, hein, parce qu'oralement, il ne s'exprimait pas du tout facilement. Ce sont les encouragements de professionnels ayant vu mes dessins qui me décidèrent à peindre. Il affirme encore « Mon succès pictural ne me fera pas négliger pour autant mon activité littéraire plus passionnante. » Dans ses lettres, Chessac apparaît avec une verve, une drôlerie, une ironie qui captive ses correspondants. Vous pourriez surtout parler de mon sans-gêne d'épistolier notoire, écrit-il à René Briand, ses correspondants. La forme épistolaire, en effet, lui permet de laisser libre cours à ce qu'il appelle sa verve satirique de grand dépendeur d'andouille. Elle ouvre à toutes les fantaisies d'écriture, aux thèmes les plus divers et les plus surprenants, en même temps qu'elle s'adresse à un grand nombre et satisfait à la visée de leur auteur d'exercer une action sur le monde, ou tout simplement de faire parler, de maintenir la langue vivante. Je n'ai d'autre projet, dit-il, que de continuer d'être à la clé d'interminables discussions. Aussi, cette multitude de lettres pourrait être considérée comme une interminable discussion, un texte unique et infini qui se poursuit à travers 1000 fragments, assurant sa fonction éminente tout au long de la vie de Chessac. Les thèmes se répètent, se croisent, se démultiplient, se heurtent, les propos se resserrent, se développent ou se contredisent, et pas un instant le lecteur ne se lasse à la lecture de ces divagations foisonnantes et ironiques dans la forêt touffue d'une langue qui s'invente en permanence. Il y trouve, selon les moments et les interlocuteurs, un Chessac drôle ou blessé, plaintif ou ironique, magistral ou fraternel, respectueux ou sans vergogne, enfantin, malin, épineux. Très vite, il écrira sur tout et de toutes les manières, aux prises avec une véritable pulsion scripturaire. Chessac, qui se dit si asthénique, au corps débraillé, ce sont des signifiants de lui, à la bedaine courroucée, aux artères en tuyaux de poils, fait preuve d'une énergie sans borne lorsqu'il s'agit, où j'avais mis d'écriture, mais il faut plutôt mettre de création, quoi, parce que la peinture, c'est pareil. Même lorsqu'il écrit du fond de son lit avec le dictionnaire Larousse à portée de main. Cependant, le pittoresque de cette écriture masque mal l'urgence douloureuse pour lui de cerner le réel, lui qui se dit aligneur de mots. Aligner des mots, écrit-il, même péniblement, mais en aligné. On voit à quel point il est suspendu à cette nécessité. Le prix à payer en est parfois coûteux. Je suis épuisé, écrit-il à Dubuffet, et voudrais m'éviter de finir comme Van Gogh. Tu sais, quand je peins, c'est comme quand on est sur une bicyclette sans frein, et ça me met à plat d'écrire aussi, puisque il procède de la même manière, hein, dans l'écriture et dans la peinture. C'est ainsi que Chessac livre à ciel ouvert la manière paradigmatique dont un sujet s'inscrit dans un bouillon de langage. C'est une formule de Lacan dans son séminaire « L'insuccès d'une bévue ». Quelle jouissance vient s'y déposer et comment, sans l'appui d'un ordre symbolique standard, il se forge des solutions d'une inventivité inouïe. Jeune, écrit-il, je n'avais d'autre but que la conquête de mon indépendance, ce qui peut exprimer le pourquoi que je m'exprime en indépendant. Je n'ai pu atteindre ce pays, mais j'en ai appris la langue, alors que d'autres y sont parvenus, mais ne peuvent s'y faire comprendre. Je pourrais me proposer comme interprète, écrit-il. C'est un fait, son royaume sera bien celui de la langue. Mais il faudra pour cela le hasard de quelques rencontres. Je cite Lacan. Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et dont nous faisons notre destin, car c'est nous qui le tressons comme tel. Ça, c'est dans la conférence Joyce le symptôme. Ce tressage s'élabore à l'insu du sujet lui-même à partir de détails souvent insignifiants. Dans une vie, on voit bien, dans une analyse, on voit bien... Pas forcément les grands événements, mais c'est un mot, c'est une circonstance, ce sont toujours à partir de détails. Donc ce tressage, oui, à l'insu du sujet lui-même, à partir de détails souvent insignifiants ou incongrus, décalés du flux de l'histoire. Ce sont eux qui permettent de saisir ce que Chessac lui-même présente comme moments cruciaux de rupture, de rencontre avec le réel, d'où naîtra ce qui sera sa vocation. Sa correspondance est particulièrement précieuse, car s'il lui déplaît que l'on glose sur lui et sur son histoire, lui aime se raconter. Et généralement, dans ses premières lettres, il se présente à ses correspondants. Et même si ses présentations sont multiples, il est possible d'y repérer ceux qui s'y répètent et ceux qui insistent. Deux contingences majeures vont déterminer son destin. En tout cas, c'est celle-là que j'ai retirée, parce que, au fond, un autre lecteur qui n'est pas orienté par la psychanalyse, peut-être n'y verrait pas les mêmes choses. Alors, Chessac, à 27 ans, est dans une impasse. Il vit entre le foyer de sa sœur en Bourgogne, celui de son frère à Paris, qui, devant l'échec des tentatives d'insertion dans le monde du travail, est amené à l'héberger chez lui. Il n'avait jamais pu rien faire jusqu'ici. Le jeune homme, désœuvré, se réfugie souvent chez ses voisins de palier, qui sont des peintres. Le peintre Otto Frenlich et sa compagne Jeanne Kosnick-Kloss. Jeanne le fait dessiner, mais c'est Otto qui aura cette formule décisive à son endroit. « Un maître nous est né », aurait-il dit. Un moment déterminant se situe ici, dans la rencontre avec cette parole oraculaire qui le sort de son désarroi et lui offre un signifiant maître majeur auquel il trouve à s'identifier, celui d'artiste, qui lui ouvre une voie toute désignée pour devenir ce maître annoncé. Et si ceci ne suffit pas à donner au sujet le style qui sera le sien, bien sûr, il en est sans doute la condition première. Chessac peut dès lors donner un nom à sa maladie de vivre, à son anomalie, à son être d'exception. Il trouve aussi avec les Frenlich une première famille de protecteurs, les appeler comme ça, qui va vite s'élargir par les Frenlich et avec lesquels il entre en correspondance. C'est ce qui le soutient. Dans les années qui suivent, où malade et sans aucune ressource, il doit être pris en charge par différentes institutions sociales ou médicales. La parole de Frenlich, un maître nous est né, se noue alors pour lui avec le diagnostic médical. Il écrit, d'ailleurs je crois que c'est au Frenlich qu'il écrit ça, non c'est à Albert Glaise, il écrit... Vous me demandez l'opinion de mon médecin, ses conseils. Les voici. Il me conseille de vivre dans un milieu agité, entre parenthèses, milieu d'artiste. Mon cas ne peut se guérir avec une formule chimique. Je n'ai rien d'organique, je suis artiste et c'est incurable. Je suis capable de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Par conséquent, il m'est difficile de faire ce que tout le monde peut faire. Voilà. De là, son anormalité, son déséquilibre deviennent des atouts, deviennent la condition même de sa qualité d'artiste. Il s'en fait un blason, et c'est ainsi qu'il deviendra ce maître qui écrit. Si je parvenais à être un grand peintre, ça n'en ferait après tout qu'un de plus. J'aime mieux travailler pour en faire naître une chier. Et ce travail va passer par la voie d'une infinie correspondance où Chessac, du fond des bourgades vendéennes où sa femme est institutrice, sème des idées par le monde, se moque des semblants, subvertit la langue et les codes sociaux et ne cesse de témoigner de la manière dont... En peinture, il parle pas toi, puisque c'est sa formule en peinture, je parle pas toi. Mais c'est au cœur d'expériences contingentes à la sortie de l'enfance qu'il va rencontrer ce qui s'inscrira réellement comme son destin. Une identification à certains signifiants qui le fixe c'est un mot de lui, et s'ordonne... dans une complainte des métiers, l'accompagnera avec son poids de réel tout au long de la vie. Il ne cesse d'insister sur ses goûts singuliers, sur une modalité de jouissance qui déterminera ce qu'il nomme sa vocation. Je le cite, « J'étais le plus paysan de la famille, et d'être conduit à la louer était ce qui m'aurait fait le plus plaisir. » Alors là, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être conduit à la louer, je me dis. Eh bien, c'est être loué chez un paysan qu'on se louait. Valet de ferme, loué. Donc, c'est ça qui c'était sa grande aspiration. J'étais le plus paysan de la famille. Être conduit à la louée était ce qui m'aurait fait le plus plaisir. Il écrit encore, j'étais chétif, mais pendant toute ma jeunesse, j'eus le désir et l'espoir de devenir robuste pour être charretier. Garçon d'écurie aussi, ça m'attirait. Vous voyez que c'était pas peintre hein, qui l'attirait. Survient vers l'âge de 15 ans le moment du choix, où dans un instant de vacillation, sa véritable vocation se révèle à lui. Je trouve qu'il nous fait bien saisir ce que c'est que la contingence. Une rencontre qui va déterminer à un moment précis. Il dit, un jour de gros chagrin, étant encore presque un enfant, je pris la route d'instinct et arrivé assez loin, j'éprouvais follement le désir d'être domestique dans la ferme que mes yeux venaient de découvrir. Mais je n'eus pas la hardiesse d'entrer m'offrir et je partis effondré. J'avais précédemment croisé bien d'autres fermes et sans raison apparente, celle-là me fit vibrer de désir. L'instinct est si fort à 15 ans, peut-il tromper ? Point d'interrogation. Chessac sait désormais où loger son être. Jeune gars, écrit-il, le patron qui m'aurait fait le plus envie était un fermier voisin, un homme dur au travail, ivrogne, de droite en politique, un clérical bon teint, ce qui n'est pas peu dire pour Chessac. Je l'aimais beaucoup et je crois que je ne lui étais pas indifférent. Et encore aujourd'hui, je crois bien que c'est un fermier, et un fermier comme ça, le patron, que je préférerais. Il ne cache pas son attrait pour une position marquée par la servitude, qu'il expose sans voile. Quand on voit la difficulté, au fond, pour la plupart des gens, pour les névrosés, d'atteindre... C'est les éléments du fantasme qui qualifient le mode de jouir. Hein. Bon, lui, c'est pas le cas. Vous pourriez me peindre, écrit-il à un peintre de la région, vous pourriez me peindre sous le jour d'un assez bon domestique. Pas tellement capable, mais ayant été bien dressé du point de vue de la soumission. De la soumission, j'en ai. Et je suis même un peu lèche-cul. Avec un patron, ou plutôt vassal dans l'âme. En conséquence, il développe une théorie sur les bienfaits de la servitude. Un fermier excelle à s'attacher à quelqu'un, en faire un vassal. Il sait le pétrir comme s'il était d'argile. Je dirais même qu'il l'envoûte littéralement. J'ai pu juger leurs résultats sur moi-même. On se sent désintellectualisé, moins conscient. C'est évidemment une sorte d'épreuve, mais mêlée d'une telle béatitude. Cette soumission qui me fut demandée, exigée, me fit l'effet d'un délice supérieur à tout ce que j'avais pu connaître. Tout s'était passé d'ailleurs en douceur, mais il faut dire que je m'étais laissé faire sans opposer de résistance. La réitération de cette expérience traumatique est formulée dans nombre de ses lettres, sous la forme de véritables aphorismes. Par exemple, « Cette vie de métairie me semble celle pour laquelle l'homme semble fait et qui, par ses vacheries, lui permet de réellement jouir. » Ou encore, « Finir dans la peau d'un valet de ferme, il n'y a que ça qui me fasse envie. » Ou « L'esclavage est le judicieux fortifiant des faibles. » Mais, écrit-il, ma vocation de garçon d'écurie me reste inobéissable, et c'est sans doute bien ainsi. Il poursuit néanmoins, j'aurais probablement été plus heureux si ça avait été. Il s'arrache cependant à cette soumission délicieuse que la pulsion exige de lui, déplaçant dans l'art et dans l'écriture la satisfaction qu'il y trouve. Il obéira désormais aux mots, aux épluchures, aux déchets, à tout ce qu'il extrait du réel. C'est ainsi que se constitue un symptôme dont il peut faire l'escabeau sur lequel il se hisse, il monte pour se faire beau. Hein, c'est le développement à partir de Joyce. Le piédestal qui lui permet de s'élever lui-même à la dignité de la chose. Alors, il ne va pas de soi de reconnaître à tout sujet un style, d'y reconnaître sa qualité. Ce qui fait dire, par exemple, ça, c'est du Proust. Il y a quelque chose qui fait que vous reconnaissez. Ou ça, c'est du Duras, du Picasso. Hein, on le nomme avec le nom. Ou tout simplement, ça, c'est bien lui. Hein, quand on dit quelqu'un, ça, c'est bien lui. Ou ça, c'est bien toi. C'est à ça que ça touche. Ça, c'est bien lui, c'est une formule utilisée par Jacques-Alain Miller pour qualifier la signature du symptôme. Hein, c'est une intervention déjà ancienne à une journée de psychiatrie à Fontevraud, mais qui a été publiée récemment, c'est pas très vieux, en 2017, hein, dans La cause du désir, hein, 96, la signature du symptôme. Pourrait-on dire alors que certains sujets sauraient élever leurs symptômes à la hauteur d'un style? Éclairons-nous d'une remarque de Lacan en 1933, vraiment tout au début. Lacan écrit, ça se trouve en complément de sa thèse, hein, dans le livre de la psychose paranoïaque, hein, sa thèse, à la fin. Il écrit, l'artiste concevra le style comme le fruit d'un choix rationnel, d'un choix éthique, d'un choix arbitraire, ou bien encore d'une nécessité éprouvée dont la spontanéité s'impose contre tout contrôle. Jacques-Alain Miller avait évoqué cette question du style aussi à propos de Gide, hein, dans ce fameux texte « Le Gide de Lacan hein, », puisqu'il avait commenté... Jeunesse de Gide, dans les écrits, le texte Jeunesse de Gide, qui s'appuyait sur la psychobiographie de Jean Delay, et donc dans un cours, il avait été isolé toute une partie qui s'appelle Le Gide de Lacan. Et Jacques-Alain Miller ouvrait à l'idée du style comme aboutissement d'un processus de mise au point, comme résultat d'une décoction dont les productions du sujet portent l'empreinte identifiable. En fait, le style, c'est le symptôme, on pourrait dire, dépouillé, vidé de tout sens, le symptôme en tant qu'il reste inscrit dans le corps, le symptôme dont il peut être fait un usage positif et inventif. Alors, nous pourrions mettre en parallèle la rencontre de Gide avec le message de Goethe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire La jeunesse de Gide dans les écrits, ou hein, d'avoir déjà, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Alors, nous, donc, mettre en parallèle la rencontre de Gide avec le message de Goethe, qui produit l'écrivain Gide apte à assumer la voie de sa singularité, et la rencontre de Chessac avec Frenlich, qui détermine la place d'exception de l'artiste, à partir de quoi, pour Chessac, vont s'organiser ses défenses contre le réel. Hein, ça n'a pas la même conséquence. Gide insiste, lui, sur la dimension de son choix propre. Qu'il soit tel qu'il se veut, écrit-il dans son journal à propos de l'artiste. Chessac, au contraire, est sous l'intimation de la parole de l'autre. Être un artiste ne sera jamais sa véritable vocation. Si pour Gide, l'entaille provoquée par sa lecture de Goethe dégage ce qu'il appelle sa figure intérieure, pour Chessac, il s'agit d'une attribution de l'autre. C'est Frenlich, c'est l'autre qu'il nomme ainsi. Une attribution de l'autre ne lui fournissant qu'un appui nécessaire pour trouver une modalité propre à lui de faire avec le réel, ce dont il aura à assumer la charge. Il écrit « Ce que je reprocherai à mon art, c'est Chessac qui écrit ça, c'est de m'avoir fait voir les choses sous un autre jour, et mon ancienne mentalité faisait bien mieux l'affaire. Écrit-il. Quoique n'étant pas un homme de devoir, je me trouve censément obligé de continuer d'écrire et de peindre, et je préférerais être quelqu'un sans mission de ce genre. Voilà. Il faut renoncer à sa vocation, qui était garçon d'écurie, qui était le déchet, qui était, hein, pour une certaine mission à laquelle il sert. Ce choix exige le temps logique du consentement à son exception propre, pour chacun d'ailleurs, qui passe chez le névrosé par l'expérience du manque dans l'autre, et chez le psychotique par la trouvaille d'une modalité de savoir y faire avec le réel, dans une expérience subjective où l'autre n'est pas constitué pour donner au sujet un point de garantie. Par ailleurs, le style suppose l'autre à qui l'on s'adresse, hein, comme dit Lacan. Bon, on pourrait dire aussi l'autre de la même paroisse. Sinon, ça tombe à plat. Sinon, si vous voulez pouvoir transmettre, il faut que vous soyez de la même paroisse, à peu près. Si tant de lettres de chez ça ont disparu, c'est bien qu'il ne s'est pas limité dans son adresse à ceux de sa paroisse, on pourrait dire. C'est-à-dire les peintres et écrivains intéressés à ce moment par tout ce qui subvertissait les académismes et jouait sur la langue, et jouer sur la langue et les formes pour les déconstruire et les subvertir. L'instituteur qui ne répond pas à sa demande d'une préface, le conseiller général auquel il envoie ses suggestions, ou l'évêque de Vendée à qui il fait part de ses déboires, n'ont que faire des lettres d'un illuminé. Dans sa conférence à Turin, le 23 mai dernier, Éloge des hérétiques, Jacques-Alain Miller développe le lien entre l'hérésie et le choix, à partir du propos de Lacan dans le séminaire Le Symptôme. Donc il dit, l'hérésie, hérésis, c'est bien là ce qui spécifie l'hérétique. Il faut choisir la voie par où prendre la vérité, dit Lacan. Jacques-Alain Miller fait valoir que le choix, c'est le ressort essentiel de l'hérésie, parce qu'il n'y a pas de voie universelle pour prendre la vérité. Et que, donc, en dehors d'une voie qui serait universelle, l'hérésie, hein, il dit que ça n'est pas essentiellement défini par la mécréance, ni par la défiance, par la déviance, pardon, mais à proprement parler par le choix. Hein, c'est un choix. Et choisir, c'est un acte. Il présente donc les artistes comme étant des hérétiques qui choisissent une voie particulière. Bon, c'est peut-être plus probant, plus facile à repérer chez les artistes, hein, mais de toute façon, un par un, chez chacun, hein, chacun peut être un hérétique. On pourrait dire que le terme d'une analyse conduit à cette position-là, pourrait conduire à cette position-là. Ce que Lacan nomme être hérétique de la bonne façon, hein, c'est aller jusqu'à pouvoir soumettre le choix fait à confirmation. On peut dire, au fond, qu'à la passe, c'est ça. C'est aller soumettre ce choix à confirmation. Hein? Il dit, la bonne façon, c'est celle qui, d'avoir bien reconnu la nature du symptôme, ne se prive pas d'en user logiquement. C'est-à-dire d'en user jusqu'à atteindre son réel, au bout de quoi il n'a plus soif. Le symptôme, il n'a plus soif de se nourrir de sens. On pourrait compléter comme ça. C'est le cas de Chessac, hein, cet hérétique qui se déplace librement dans le champ du langage, sans complaisance aucune accordée à la signification. Il s'y déplace, alors ça c'est une référence, oui. Il s'y déplace en se réglant sur sa partie matérielle du langage, de la langue, c'est-à-dire sur la lettre, au lieu de lettre, E, accent circonflexe, TRE. Le choix de cette voie implique la mise à distance de tout sens et du pathos qui l'accompagne, pour se régler sur une nouvelle dimension du symptôme, sur sa positivité, sur la satisfaction qu'il entraîne et les usages qu'il permet. C'est la bonne façon d'être hérétique. Savoir manipuler son symptôme, qui est une formule que vous connaissez sans doute, savoir y faire avec, c'est ce qui peut être obtenu au terme d'une psychanalyse, et c'est ce que chez Sack l'artiste obtient par lui-même à la façon de Joyce, et ce dont il témoigne magnifiquement. Par la voie d'un pseudo-primitivisme qui a fait la joie des tenants de l'art brut et des surréalistes, Chessac a sans doute cru un temps trouver une famille. Mais il n'est pas du même monde. La barrière de la transgression lui est étrangère. Il se situe bien au-delà. Ce que les autres atteignent par un effort de déconstruction poétique de la langue, par la décomposition des volumes, Chessac, lui, y parvient, en quelque sorte à l'inverse, par une réunification de bouts de réel, un assemblage d'éléments isolés, par une mise en jeu du corps, auprès de quoi les techniques et les stratégies de ceux qu'il appelle les gens en place, pour obtenir un petit peu de spontanéité et d'originalité, les peintres, les surréalistes, etc., lui paraissent bien dérisoires. Il prend à témoin l'abbé Coutant, qui était un de ses grands correspondants. « Ne trouvez-vous pas comme c'est curieux de comparer mes tableaux avec les dessins de la main gauche de Jean Lancelme, qui montre bien le je m'en foutisme et le laisser-aller des gens en place ?» Moi, c'est le laisser-aller des éliminés, des inadmissibles, écrit-il. Chessac dit s'être habitué à sa peinture. Quant à l'écriture, il ne peut s'en passer. Il leur sera fidèle jusqu'au bout. Si renoncer à ce qu'il nomme son ancienne mentalité a fait de lui un artiste et un épistolier notoire, comme il se nomme, dont nous continuons à découvrir l'ampleur de l'œuvre, il restera, lui, toujours nostalgique de la jouissance à laquelle il a renoncé. Voilà. Donc c'est un petit...